Avenir institutionnel, économie, sécurité. Pour la première fois de son voyage, Naïma Moutchou s'exprime sur le contenu de ses rencontres. Elle était ce matin l'invitée de Radio Rythme Bleu, interrogée par Elisabeth Noir. Nous y revenons dans un instant. Le Palika quitte définitivement le FLNKS. Décision prise la semaine dernière lors de son congrès à Bouraille, le week-end dernier, et confirmée ce matin. Soutenir les enfants en longue maladie ou en rémission et les emmener sur un îlot, le club de service La Table Ronde organise aujourd'hui la 12e édition des Voiles du Caillou. Longue journée de commémoration en France, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015. La blessure est encore vive. Dans l'actualité sportive du football, et l'équipe de France qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Elle a validé son ticket après une victoire 4-0 ce matin face à l'Ukraine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les rendez-vous du vendredi et notamment le magazine Transparence que vous retrouverez dès la fin de ce journal. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Votre invité sera aujourd'hui Judicaël Séléphène.
Oui, c'est la première fois qu'il est invité dans Transparence, Judicaël Séléphène, l'un des porte-parole du Palika. Ce sera l'occasion bien sûr de revenir sur le 50e congrès du Palika qui s'est réuni ce week-end à Bouraille sur le site de Téné. Le Palika en faisait le compte-rendu ce matin dans une conférence de presse. Judicaël Séléphène qui sera également interrogé sur l'avenir institutionnel, bien sûr sur le calendrier de l'accord de Bougival ou sur la visite de la ministre des Outre-mer. On se retrouve d'ici une demi-heure en sa compagnie.
Et à 16h45, on vous retrouvera pour le club politique Radio Rythme Bleu.
Avec un sommaire sans surprise, bien sûr, nous reviendrons dans ce club politique sur les premiers enseignements de la visite de Naïma Moutchou, une visite qui doit se terminer ce soir. Nous reviendrons également sur les conclusions à tirer du 50e congrès du Palika, puisqu'il y a eu un certain nombre d'annonces et de positionnements de la part du parti. Et puis nous évoquerons également la situation des cantines de l'ADEC, un sujet que nous n'avons pas eu le temps de traiter la semaine dernière. Ce sera donc fait ce soir.
Je suis convaincu qu'il y a un chemin, déclare Naïma Moutchou. La ministre des Outre-mer était donc ce matin l'invitée de Radio Rythme Bleu. C'est la première fois qu'elle s'exprimait publiquement depuis son arrivée sur le territoire et elle apportait un certain nombre de réponses. Elle affirme notamment qu'elle veut tenir un cap d'autorité et de fermeté et qu'elle veut lier le plan institutionnel et le plan économique et social. Naïma Moutchou tient également des propos très clairs à l'égard du FLNKS, Elisabeth.
La ministre fait le constat que le FLNKS ne veut pas de Bougival, mais que le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble. Plus globalement, elle est revenue sur la mission que lui ont confiée le président de la République et le Premier ministre. Il s'agissait de retisser le lien du dialogue et de tenir un cap d'autorité et de fermeté, et puis aussi de chercher une solution sur le plan institutionnel et sur le plan économique et social, mais elle veut lier les deux. Et c'est la raison pour laquelle elle a surtout écouté.
Vous avez raison, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de l'écoute. Je suis venue modestement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie que je connais. Je suis venue en 2018, ça fait très longtemps que je travaillais aussi sur ces sujets. J'ai pas découvert le territoire en sortant de l'avion la semaine dernière, donc je savais que ce serait difficile et la semaine n'a pas été simple. Mais j'ai entendu tout le monde. Toutes les forces politiques sont venues à la table, principalement dans le cadre de bilatéral. Donc on s'est vus, on a échangé les yeux dans les yeux. Moi j'ai posé un cadre de méthode. J'ai dit que je n'avais pas de temps à perdre et que j'étais là pour écouter. Mais alors dans ce cas-là, il faut un dialogue vrai et un dialogue franc. Qu'on se dise les choses. Est-ce que l'accord de Bougival tient encore? S'il ne tient pas, pourquoi? J'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre et de savoir ce qui bloque pour avancer. Et on a fait ce travail-là, y compris avec le FLNKS.
La ministre a tenu des réunions bilatérales, mais elle a aussi reçu ensemble tous les groupes politiques, à l'exception du FLNKS. Pour elle, il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS, mais c'est une impasse qu'elle ne peut accepter.
Ce qui ressort des premiers échanges que nous avons eus, c'est que le FLNKS veut rester en dehors de l'accord de Bougival. Le mot même de Bougival crispe la délégation que j'ai reçue. Clairement, c'est la trajectoire de l'indépendance. Et donc, il n'a pas la place au compromis dans ces conditions. C'est d'autant plus difficile qu'à ce stade, ceux que j'ai rencontrés n'ont pas de mandat de négociation. Donc, il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS. Mais c'est une impasse que je ne peux pas accepter en ce qui me concerne. Parce que la Calédonie ne peut pas rester immobile. Il y a des enjeux majeurs. Ce qui va se passer en 2026, c'est un tournant pour les Calédoniens, notamment sur le plan économique et social. Donc on ne peut pas rester les bras croisés, c'est le message que j'ai fait passer. Le statu quo n'est pas possible et les autres forces politiques le comprennent. 5 sur 6 aujourd'hui tiennent à Bougival.
Et quand on rappelle à Naïma Moutchou qu'elle avait déclaré qu'elle ne voulait pas faire sans le FLNKS, elle tient à bien préciser les choses.
La phrase complète, et c'est important, je ne veux pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres. C'est ça la méthode du consensus, et en particulier en Calédonie. Donc, j'entends moi que le FLNKS ne veulent pas de Bougival, mais je n'ai pas de contre-proposition aujourd'hui, je n'en ai pas. Sauf une trajectoire d'indépendance, mais qui donc ne s'inscrit pas dans un compromis. Qu'est-ce qui s'est passé à Bougival et pourquoi c'est important Bougival? Parce que vous avez des forces politiques qui ne se parlaient plus, qui ont décidé à un moment donné de se réunir et de mettre les choses sur la table et de faire un pas de côté. On n'avait pas vu ça depuis longtemps quand même. Et chacun acceptait des négociations, des concessions, alors que on pourrait se dire les ambitions, elles sont contradictoires. Vous avez des aspirations indépendantistes d'un côté et puis des gens attachés à la République de l'autre. Mais oui, mais elles ont accepté de s'ouvrir au dialogue et d'accepter que celui qui était en face ne sorte pas humilié de la séquence. C'est comme ça qu'est né Bougival. Et c'est cet esprit que je veux préserver et continuer à porter. Donc je ne peux pas accepter qu'une partie me dise « il n'y a rien ». J'ai pas de proposition. C'est l'indépendance ou rien. Ça n'est pas entendable vis-à-vis de la méthode qui est celle du consensus ici et vis-à-vis des pas qui ont été faits par les autres.
Et face à ce rejet de la part du FLNKS et à son absence de proposition, la ministre des Outre-mer indique que la porte reste ouverte, mais que l'on ne peut pas perdre de temps.
La porte, elle est ouverte. C'est ce que j'ai dit au FLNKS. La porte est ouverte. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans deux mois, la porte est ouverte. Ils peuvent prendre le temps de la réflexion, s'organiser. J'imagine qu'il y a des échanges en interne. À un moment donné, s'ils veulent revenir dans la discussion, la porte est ouverte. En attendant, il faut avancer. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas se permettre de rester dans un statu quo. Je rappelle les défis majeurs que les Calédoniens devront affronter dans une situation économique dégradée. On ne peut pas perdre de temps. Et donc, le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble.
Le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble. Naïma Moutchou qui précise que les discussions sont toujours en cours. Dès cet après-midi, elle doit revoir l'ensemble des forces politiques avec une plénière d'une part et le FLNKS qu'elle recevra en bilatéral. Voilà donc un soutien. Elle réaffirme le soutien à l'accord de Bougival. Voilà pour la partie institutionnelle. La ministre que nous avons bien sûr également interrogée sur la situation économique catastrophique de la Nouvelle-Calédonie et sur le message qu'elle a voulu passer aux acteurs économiques et sociaux. Et pour elle, il y a essentiellement deux choses.
Il y a les urgences immédiates pour la Calédonie. Il y a des choses qui vont se dérouler dans le cadre du projet de loi de finances, donc assez vite. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis à Paris. C'est pour ça que je pars là. Mardi, je suis à Paris pour l'examen des crédits budgétaires outre-mer, notamment Nouvelle-Calédonie. Mais surtout, le plan de relance à venir. C'est un plan de relance massif. Hein. Le Premier ministre avait parlé de sursaut économique et social, de choc de confiance pour le territoire. C'est pas rien.
Quelles aides peuvent être déjà annoncées ou sont prévisibles ?
C'est un plan qui continue de se construire, en fait. Hein. Parce que c'est pas simple. C'est un plan qu'on veut voir se réaliser sur plusieurs années. Donc il y a tous les sujets à l'intérieur. Il y a les projets structurants qu'on pourra porter en termes d'infrastructures. Il y a la question fiscale. Il y a tout le sujet du nickel, de la stratégie qui doit être mise en œuvre. Puis après, il y a les plus petits projets, site par site, territoire par territoire. Les provinces ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes problématiques. Donc c'est un travail long cours. Mais c'est important. C'est pas quelque chose d'évanescent.
La ministre qui précise que c'est la raison pour laquelle elle a voulu dans sa délégation venir avec Claire Durieux, qui est la directrice de la mission interministérielle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Elle précise qu'elle travaille sur les deux volets institutionnels et économiques et sociaux, les deux jambes qui vont permettre au territoire de se redresser. Et elle réaffirme que l'État n'abandonnera pas la Nouvelle-Calédonie, qu'il n'a jamais abandonné la Nouvelle-Calédonie. Les élus seront aussi au rendez-vous, dit-elle, en affirmant qu'elle ne veut pas faire de chantage aux élus.
C'est pas vous faites des réformes et on verra. Si on vous aide, d'abord, le temps de faire les réformes, pardon, hein, mais tout ça se sera écroulé. Donc non, on n'a pas le temps. Non, bien sûr, on viendra en appui la Nouvelle-Calédonie, puis en parallèle, les élus engageront les réformes, parce que la Calédonie, c'est pas un territoire qui veut faire la poche de l'État. C'est pas un territoire qui vient, vous voyez, nous secouer la manche en nous disant on veut de l'argent, on veut de l'argent. Pas du tout. La Calédonie veut pouvoir vivre de manière pérenne sans venir toquer à la porte à Paris. Ça, je le sais, tout le monde me l'a dit et je l'ai vu. Et je le vois depuis des années. Donc je sais que le territoire calédonien veut s'en sortir. Je sais que les élus aussi. Nous, on est là pour accompagner, pour donner des expertises si besoin. En fait, c'est un tout. Et ce que je veux dire, c'est que l'État sera présent.
Et interrogé sur la filière nickel, Naïma Moutchou affirme qu'il y a une stratégie à redéfinir, que ce doit être un grand plan pour le nickel. Les lignes, selon elle, sont en train de bouger. Elle signale qu'elle a rencontré Paul Néoutine. C'est pour elle un signe qu'il y a quelque chose, une petite mécanique qui est en train de s'enclencher. La ministre des Outre-mer nous a confirmé par ailleurs qu'il n'y avait pas de coup de rabot dans la défiscalisation. Elle affirme s'engager à travailler l'année prochaine pour préparer le prochain projet de loi de finances. Avec une autre méthode, dit-elle, je crois que l'on peut arriver à faire des miracles. Naïma Moutchou, nous avons également interrogé sur le secteur de la sécurité et de l'ordre public. Je veux défendre les Calédoniens, dit-elle, on leur doit la sécurité.
Ma mission aussi, c'est de tenir ce cap. Moi, je suis attachée à l'autorité de l'État. On ne fait rien dans le bazar, on ne fait rien dans le désordre. Il y a des règles. Les règles, elles doivent être respectées. On peut manifester, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. On ne franchit pas la ligne rouge. Deux gendarmes ont été tués. Ça, c'est encore dans notre chair. Donc, la fermeté, c'est non négociable et ce sera tolérance zéro.
Naïma Moutchou qui affirme encore que les importants effectifs de forces de l'ordre, tant en gendarmerie qu'en police, resteront sur le territoire aussi longtemps qu'il le faudra.
Et si vous n'avez pas pu suivre cette interview de Naïma Moutchou, notez qu'elle sera rediffusée sur Radio Rythme Bleu dans son intégralité. Ce sera juste après le flash de 16h cet après-midi. Interview qui est aussi disponible d'ores et déjà sur le site rrb.nc. On va marquer une pause dans ce journal. On va revenir dans un instant sur les autres étapes de sa matinée sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, paroi de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et après son passage dans les studios de Radio Rythme Bleu ce matin, la ministre des Outre-mer s'est rendue à Rivière-Salée au lycée Petro-Attité. Lycée qui, je vous le rappelle, a été pillé, saccagé et en partie brûlé lors des émeutes de mi-2024 et qui avait dû fermer ses portes. Aujourd'hui, quelques élèves ont retrouvé leur classe malgré les nombreux travaux en cours dans l'établissement. Une visite essentielle pour Naïma Moutchou qui a rappelé que l'État continuera d'accompagner la jeunesse calédonienne.
C'est une nécessité absolue. L'État s'engage pour les jeunes, pour qu'ils puissent retrouver des conditions d'apprentissage qui soit digne de ce nom, parce que c'est quand même l'avenir de ce territoire. Donc oui, l'État sera au rendez-vous, c'est évident. J'avais vu quelques images, celles qui ont tourné, comme vous le savez bien, mais de visu, c'est toujours très impressionnant. Et puis on est longtemps après les émeutes, mais c'est partout. C'est partout dans les bâtiments, c'est partout dans les structures. Et donc, on voit bien la violence, oui, de ce qu'ont été les émeutes.
La ministre des Outre-mer a longuement échangé avec le proviseur du lycée qui lui a fait faire le tour des différents ateliers, peinture, maçonnerie, électricité et plomberie. Atelier dans lequel Gaëtan enseigne aux élèves de lycée Petro-Attiti.
J'ai envie de dire que c'est une bonne chose, dans le sens où c'est bien qu'elle puisse se rendre compte de l'état de nos ateliers, du manque de l'outillage. J'espère qu'elle a pu le voir. Lors des émeutes ici, l'atelier a été très impacté. On a démarré avec zéro outil et tout est à refaire, quoi. J'espère qu'elle s'en rendra compte et qu'elle fera le nécessaire pour nous. C'est vrai que la reprise a été très compliquée, surtout l'année dernière et ce début d'année. Maintenant, voilà, il faut avoir un peu de résilience et essayer d'avancer. Se dire que ces jeunes, ils sont là, ils ont envie d'apprendre, donc il faut faire le nécessaire.
Et le proviseur du lycée, Éric Vallon, qui s'est entretenu avec la ministre, espère maintenant que les bâtiments vont pouvoir être reconstruits rapidement et les ateliers rééquipés pour qu'enfin tous les élèves puissent réintégrer leur classe. Rencontre avec les maires, c'est l'étape suivante de la visite de Naïma Moutchou, qui est actuellement au Haut-Saria. Elle doit ensuite se rendre pour une visite du quartier de Tindu. Cet après-midi, elle l'a annoncé sur Radio Rythme Bleu ce matin, elle a donc convoqué une nouvelle réunion plénière avec les groupes politiques et recevra le FLNKS en bilatéral. Je vous rappelle que la ministre quittera le territoire la nuit prochaine pour nous. 12 jeunes ont embarqué à bord d'un catamaran ce matin. C'est le reste de l'actualité en Calédonie. Ils sont en longue maladie ou en rémission et leur quotidien n'est pas toujours facile. C'est la raison pour laquelle le club de service La Table Ronde de Nouméa tient à leur offrir une parenthèse dorée au moins pendant 2 jours, Charlotte Coulson.
Oui, les enfants ont pris la mer ce matin à bord de 3 catamarans direction l'île au Signal. Ils seront encadrés lors de leur escapade par les bénévoles du club présidé par Ladislas Loudou.
On va emmener les enfants en catamaran pour une sortie de 2 jours, direction l'île au Signal, où on va leur proposer une multitude d'activités. L'idée, c'est vraiment de leur offrir une belle parenthèse dans leur quotidien qui est pas tous les jours facile, et vraiment essayer de leur offrir cette bulle un peu de respiration dans leur quotidien. J'espère qu'on va réussir comme toutes les autres années à leur mettre un gros sourire sur le visage. En général, ça se passe toujours très bien. Cette année, on a déjà le soleil avec nous, donc c'est parti pour être une très belle édition.
Du côté des jeunes, il y avait un peu d'appréhension ce matin au port Moselle, mais aussi et surtout beaucoup d'excitation à l'idée d'embarquer. Il s'agit pour certains d'une première expérience en mer.
Là, je vais partir au catamaran parce que c'est un peu génial de vivre sur un bateau. Un peu stressé, mais ça va passer.
Là, je suis contente de partir. Je crois qu'on va aller voir les poissons.
Aujourd'hui, je vais aller sur le catamaran avec d'autres personnes. C'est la première fois. Là, je vais découvrir.
Tu te sens comment ?
Excitée. Oui, content.
Et après 2 jours de voyage en mer, les enfants retrouveront la terre ferme demain à 16h.
L'actualité dans la région avec de nouvelles tensions entre l'Australie et la Chine. Il y a quelques jours, le directeur australien du service de renseignement intérieur, Mike Burgess, a révélé que des pirates informatiques chinois avaient tenté de filtrer les réseaux d'infrastructures sensibles. Pékin a répondu en s'en prenant directement à Mike Burgess, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette attaque en règle a été lancée par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lequel a implicitement accusé Mike Burgess d'avoir, je cite, « multiplié les attaques contre la Chine ces derniers mois et d'avoir délibérément semé la division et la confrontation ». La Chine, a-t-il poursuivi, s'y oppose fermement et a vivement protesté auprès de l'Australie. Il est à espérer que le haut responsable en question cessera ses déclarations irresponsables et agira davantage en faveur du développement salutaire des relations sino-australiennes, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, avant de marquer une nouvelle pause, c'est aujourd'hui peut-être votre jour de chance. En tout cas, je vous le souhaite. Le tirage au sort de notre grand jeu chance aura lieu à 14h. 14h, c'est donc leur limite pour envoyer chance au 40-20 pour gagner un magnifique cadeau, Thierry.
Oui, c'est un iPhone 16 de 128 gigas en capacité. C'est un cadeau d'une valeur de 119 990 francs offert par Mobile Mania, Jean-François.
Mobile Mania. Donc, le tirage au sort, c'est à 14h. Vous envoyez d'ici là chance au 40-20 autant de fois que vous le voulez. Plus vous jouez, évidemment, plus vous avez de chance d'être tiré au sort. Le résultat et le nom du gagnant ce soir dans le journal de 17h45. Une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant, on en vient à l'actualité en métropole, dominée évidemment par les cérémonies pour commémorer les attentats du 13 novembre 2015.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
En métropole où personne n'a oublié ces moments-là.
J'étais en pleine chanson, etc. On a entendu comme des coups de pétard dans le dos, quoi. Ça tirait. Le mec, il rechargeait son arme au fur et à mesure. Il a vidé, je sais pas, 3, 4, 5 chargeurs. J'ai vu des corps par terre, des gens morts, des blessés, du sang partout, etc.
C'était il y a 10 ans sur Europe 1, les premiers témoignages au Bataclan. La France a suivi en direct la série d'attentats au soir du 13 novembre 2015. Qui a fait 132 morts et plusieurs centaines de blessés lorsque les terroristes ont lancé leurs attaques au Stade de France, à la terrasse des cafés parisiens ou au Bataclan en plein concert des Eagle of Death Metal. 10 ans après, la France s'est souvenue de ces instants tragiques. Emmanuel Macron s'est rendu sur chacun des lieux visés par les terroristes islamistes avant de rejoindre la place Saint-Gervais, près de l'hôtel de ville de Paris, pour une cérémonie en hommage à toutes les victimes de cette nuit d'horreur.
Il voulait semer la mort, vous avez rehaussé la vie. Il voulait nous paralyser par la peur. Ils ont décuplé notre vigilance, l'amour de nos valeurs, notre appétit de vivre. Ils voulaient diviser et nous sommes unis.
Les cloches de Notre-Dame ont retenti. 132 étoiles artificielles symbolisant les 132 victimes ont été allumées avant qu'Axel Saint-Cyrel n'entame la Marseillaise. Une cérémonie retransmise sur grand écran sur la place de la République qui s'est transformée comme il y a 10 ans en mémorial pour les victimes. De nombreuses personnes sont venues déposer des fleurs ou des bougies.
C'est important qu'on soit là parce qu'on se rappelle tout ce qu'on faisait ce soir-là et c'est surtout en hommage aux victimes qui sont parties, celles qui ont été blessées, tous les gens, les proches et tout ça, pour dire qu'on les oublie pas.
C'est pas excusable. Et le pardon, moi qui suis croyante, c'est très compliqué, je vous l'avoue. C'est un moment de notre vie qui a été une tragédie et qui sera jusqu'à la fin de ma vie une tragédie. Et c'est comme ça, on vit avec, il faut le transformer.
À la fin de la cérémonie à Saint-Gervais, Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, le maire de Paris, ont inauguré le jardin du 13 novembre en compagnie de 2 responsables d'associations d'aide aux victimes et à leurs familles. Une plaque commémorative a été dévoilée avant que les participants respectent une minute de silence.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. D'abord, 10 ans après les attaques du 13 novembre, pensez-vous que la menace du terrorisme islamiste est toujours aussi importante en France? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent que c'est une bonne idée d'implanter une antenne du RSMA, le régiment de service militaire adapté dans le Grand Nouméa. Ils ne sont que 8% à ne pas partager cet avis. Boualem Sansal est soigné dans un hôpital de Berlin et reprend des forces, libéré hier après avoir été emprisonné à Alger pendant près d'un an. L'écrivain algérien naturalisé français en 2024, âgé de 81 ans, a pu retrouver son épouse et il a pu aussi s'entretenir avec l'ambassadeur de France en Allemagne, François Delattre.
Je trouve qu'il a bon moral et pour autant que je puisse en juger, il m'est apparu physiquement dans une condition aussi satisfaisante que possible compte tenu des conditions et après une année difficile.
La question de son retour en France s'est posée mais rien n'a été décidé. Cela dépendra en partie des résultats des examens médicaux réalisés à l'hôpital de Berlin. L'Allemagne a en effet joué un rôle déterminant dans la grâce accordée par le président algérien Tebboune à Boualem Sansal et dans sa libération, alors que les relations sont très tendues entre Paris et Alger depuis un an. Cette libération de Boualem Sansal va-t-elle changer quelque chose et comment peut-on imaginer l'évolution des relations franco-algériennes? Maïhélène Trémollet pour Europe 1.
Une relation apaisée, une reprise du dialogue calme et exigeante, c'est le mot d'ordre du Quai d'Orsay et de la place Beauvau au lendemain de la libération de Boualem Sansal. Malgré les multiples provocations d'Alger ces derniers mois, sur BFM TV, Laurent Nunez persiste dans une politique de la main tendue et annonce même qu'il se rendra en Algérie prochainement.
Il faut qu'on poursuive ce dialogue avec l'Algérie, mais dans des conditions d'exigence. On a beaucoup de choses à demander à l'Algérie, notamment pour ce qui me concerne, pour le canal sécuritaire. La stratégie du bras de fer ne fonctionne pas. Vous savez, le ministre de l'Intérieur algérien m'a invité à me rendre en Algérie, donc la probabilité que je m'y rende, elle est quand même très forte.
En clair, l'heure est au dégel après presque un an, durant lequel le gouvernement de François Bayrou aura tenté sans succès d'imposer un rapport de force avec Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel, en août dernier, Emmanuel Macron lui-même réclamait dans une lettre plus de fermeté face à Alger. Et il y a moins d'un mois, une majorité de députés votait à l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour dénoncer les accords de 1968. Un vote pour l'instant resté sans réponse, malgré les sollicitations répétées du Rassemblement national.
Il sera 11h53 dans quelques secondes. On terminera ce journal dans un instant par la page sport et la qualification de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde 2026. Et ensuite, ce sera le magazine Transparence. Notez que ce n'est pas Judicaël Séléphène qui sera l'invité d'Elisabeth Noir, mais un autre porte-parole du Palika, Charles Wachitine.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province Sud.
Et ouais !
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infoma avec l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et c'est la bonne nouvelle du jour en football. L'équipe de France a décroché son billet pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus se sont imposés 4-0 ce matin sur l'Ukraine, Léo Fichou.
Oui, une victoire qui s'est décidée en seconde période, puisqu'à la pause, le score était toujours de 0-0. Kylian Mbappé a montré la voie en ouvrant le score sur pénalty avant d'inscrire un doublé. Le capitaine des Bleus qui ne semblait tout de même pas rassasié après avoir marqué son 400e but déjà en carrière.
Si vous me l'aviez dit 20 ans plus tôt, j'aurais dit que c'est fantastique. Maintenant que vous le dites maintenant, qu'il y a un joueur qui a 950 et un autre 900, bah, il faut en remettre 400 pour au moins qu'on me remarque un peu. Donc, c'est super, c'est un chiffre symbolique, c'est sûr que c'est spécial, mais voilà, il faut continuer à travailler et continuer à marquer un maximum de buts.
Doublé donc de Kylian Mbappé qui lui permet de devenir le plus jeune joueur à atteindre les 400 buts en carrière. Il y a aussi des réalisations de Michael Olise et de Hugo Ekitike. Une victoire 4-0 qui assure les joueurs de Didier Deschamps de terminer en tête de leur groupe de qualification avant même le dernier match des Bleus qui aura lieu lundi contre l'Azerbaïdjan. Début de la rencontre à 4h pour nous.
Et puis du tennis avec la suite des ATP Finals. Carlos Alcaraz et Alex de Minaur sont les deux qualifiés du groupe A pour les demi-finales.
Carlos Alcaraz pas assuré de terminer l'année numéro 1 mondial, a battu Lorenzo Musetti 6-4, 6-1 ce matin dans le dernier match du groupe A. Un peu plus tôt, Alex de Minaur avait dominé Tyler Fritz 7-6, 6-3. Dans le groupe B, Yannick Sinner affronte Ben Shelton à minuit ce soir. L'Italien terminera quoi qu'il arrive dans les deux places qualificatives pour le dernier carré de ce groupe B. Le dernier billet se jouera entre Alexander Zverev et Félix Auger-Aliassime à 6h30 demain matin. Le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales.